Bonsoir à tous. Je vous propose que nous démarrions notre séance par l'appel. Lionel, vous avez ce qu'il faut. Merci.
Pierre Mallet.
Présent.
Marie-Christine Lamotte. Jean-Max Croze. Jean-Yves Parono.
Présent.
Christian Sonnet. Dominique Clavé. Jeannette Deletré, Louis Pascal, Frédéric Carrère, Joël Mallet, Jean-Marie Esquier.
Jean-Marie Esquier, pardon, il est absent et il est remplacé. Il avait avisé en principe.
Guy Sibu, Jean-Paul Alire, Gérard Apestegui, Robert Duézo-Méral, Catherine Demême, Geneviève Dariussec, Hervé Bayard,
présent.
Muriel Croze, Bertrand Tortigue, Marie-Christine Bourdieu, Charles Daillot, Chantal Davidson, Farid Eba, Eliane Darteron, Antoine Vignotuquet, absent, donne pouvoir à Bruno Ruffia.
Il est là.
Catherine Piquet, Jean-Paul Gantier, Catherine Dupouille-Ventrepol, Gilles Chauvin, Chantal Couturier, Bruno Ruffia, Chantal Plancheneau, Nicolas Tachon, absent, pouvoir à Hervé Bayard, Stéphanie Chédad, Thierry Socodiabert, Pascal Horry, Jean-Marie Badby, Marina Bancon, Renaud Laïtette, Elisabeth Soulignac-Gerbeau, Didier Simon, Karen Juan, absente, pouvoir à Elisabeth Soulignac-Gerbeau, Julien Tunès, Véronique Glaise, absente, pouvoir à Sylvie Ingan, Michel Garcia, Jean-Paul Le Tyran, Florence Thomas, Xavier Dumoulin, Jean-Louis Dariotor, Régine Nellig, Patrick Dangoumo, Joël Bonnet, Delphine Salambier, Bernard Kruzinski, Marie-Denis, Olivier Boissé, Laetitia Tachon, absente, pouvoir à Marie-Denis, Éric Mezrich, Marilyn Rousseau, absente, pouvoir à Éric Mezrich, Denis Capdeviol.
Merci. Le procès-verbal de notre séance du 29 septembre. Y a-t-il des observations de la part de l'un d'entre vous? Il n'y en a pas. Donc, y a-t-il des avis contre? Des abstentions? Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Bon, notre conseil communautaire comporte quelques délibérations importantes, notamment dans la partie aménagement, avec la prescription de notre PLUI, les schémas directeurs d'accessibilité, le concours de maîtrise d'œuvre pour la pépinière de notre parc technologique. Et nous avons une partie financière aussi importante, avec une décision modificative qui intègre surtout les nouveaux produits au niveau de notre agglomération qui ont été validé au niveau de la CLECT pour les transferts scolaires. Bon, je vous propose d'ores et déjà d'examiner le compte rendu des décisions que j'ai pu prendre entre le 21 septembre et le 17 novembre. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces décisions. Il y en a quelques-unes importantes, comme la convention de partenariat entre notre agglomération, la société GEPSA, le centre pénitentiaire de Pémignan et le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Landes pour un dispositif d'insertion de formation professionnelle en matière d'espace vert. Pas mal de groupements de commandes. Une autre à propos des emplois saisonniers à la médiathèque, vous savez, c'est pour les ouvertures dominicales où nous recrutons essentiellement des étudiants. Voilà, est-ce que vous avez des questions, Didier Simon?
Alors, juste une question. Les 3 millions de prêts qui vont être faits au crédit foncier vont être dirigés vers quelle opération d'investissement ?
Généralement, ce n'est pas vers des opérations précises, ce sont des... D'ailleurs, Hervé Bayard va répondre.
Très bien. Donc, ce n'est pas particulièrement fléché, c'est simplement de façon à financer l'investissement global que nous opérons durant toute l'année. Donc, ce n'est pas une opération en particulier.
Éric Messrich.
Oui, bonjour. C'est juste pour savoir s'il était possible d'avoir le détail de la mission d'études urbaines sur la zone de la Moustaille.
Pour l'instant, nous avons simplement, vous pouvez avoir le détail sans problème du cahier des charges de cette étude, puisque nous avons procédé à l'attribution à une société qui n'a pas démarré le travail, hein, qui va le démarrer là dans les prochains jours. Et bien sûr, si vous souhaitez le cahier des charges, il n'y a pas de problème, il vous sera transmis. Y a-t-il d'autres questions ? Parfait. Notre première délibération. Je vais donner la parole à Pierre Mallet. Il s'agit du droit de préemption urbain.
Merci, Madame la Présidente. Cette délibération vous propose d'instaurer le droit de préemption urbain. On en avait parlé lors du dernier, d'ailleurs, conseil communautaire. Puisque l'extension de la compétence obligatoire aménagement de l'espace communautaire en matière de planification à l'ensemble des documents d'urbanisme dans la perspective d'adopter un PLUI, ce que nous verrons lors de la prochaine délibération. Ceci a entraîné le transfert automatique du droit de préemption urbain à la communauté d'agglomération. Comme rappelé dans la délibération du mois de septembre dernier, la communauté d'agglo est dorénavant titulaire du droit de préemption à la place des communes membres. Par le biais de cette délibération, il convient à présent de définir de manière plus précise ce droit de préemption. Et notamment, il est proposé au Conseil communautaire d'instaurer le droit de préemption tel qu'il résulte des dispositions légales du Code de l'urbanisme sur les zones U, AU, délimitées par actuellement les PLU, approuvées par les communes membres de la communauté, et plus tard dans le cadre du PLUI. Il est également proposé dans le cadre de ces zonages que les communes puissent se voir déléguer ce droit de préemption pour des opérations d'intérêt communal. À l'occasion de l'aliénation d'un bien, il s'agit donc de délégation ponctuelle à l'exercice de ce droit de préemption. Voilà. Pour information, ce droit de préemption peut également être délégué à l'État, à une collectivité locale ou à l'EPFL, par exemple, pour une opération d'aménagement.
Y a-t-il des questions ? Monsieur Messrich ?
Merci, Madame la Présidente.
Pardon.
Oui. C'est juste pour la bonne compréhension du projet de délibération. On parle bien des communes qui puissent voir déléguer l'exercice du droit de préemption. Alors, toute la difficulté, c'est de distinguer l'intérêt communal de l'intérêt intercommunal d'une opération qui pourrait être faite sur telle ou telle commune. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'opérations qui pourraient être faites ici et là pour qu'on comprenne bien, pour que chacun puisse bien comprendre quel est l'intérêt communal, quel est l'intérêt intercommunal sur le droit de préemption, quand on sait que le droit de préemption est souvent utilisé pour des opérations immobilières. Merci.
Oui, par exemple, sur un terrain qui serait mis à la vente, l'agglo peut préempter pour créer de la voirie, et des espaces publics qui seraient, eux, communaux, préempteraient aussi. Et dans ce cadre-là, Madame la Présidente déléguerait son droit de préemption au conseil municipal de la commune concernée, qui pourrait préempter pour sa partie. Voilà, c'est un exemple concret. En fait, c'est pour laisser l'opportunité aux communes membres de pouvoir préempter pour des opérations ou des projets purement communaux.
D'autres questions ? Bien, y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, Pierre Mallet.
Conformément au statut modifié par l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2015, le Marsan Agglo est compétent pour élaborer son PLUI. Compte tenu de la loi SRU qui exprime la volonté de rénover le cadre juridique de ses politiques d'aménagement, compte tenu des lois Grenelle 1 et 2 qui instaurent des notions liées aux continuités écologiques, trame verte et trame bleue, et à la maîtrise des consommations de l'espace, la loi Allure et notre SCOT qui a été approuvé par délibération du Conseil communautaire. La communauté d'agglomération dispose donc de tous les éléments de réflexion pour prescrire ce document, le plan local d'urbanisme intercommunal. L'un des enjeux majeurs de ce PLUI sera sa capacité à traduire dans un document réglementaire ses objectifs de réduction de consommation des espaces naturels et agricoles inscrits dans notre SCOT. Nous avons pour cela fait un travail en profondeur dans le cadre du SCOT qui va nous servir lors des discussions pour ce PLUI. Voilà, ce PLUI devra intégrer plusieurs enjeux liés au développement économique et à l'attractivité du territoire. Il devra favoriser ce développement économique, aménager le territoire de façon harmonieuse, préserver les ressources environnementales en tenant compte des ressources naturelles et paysagères pour tout projet d'aménagement. Voilà, bien sûr, le PADD du SCOT et l'ensemble des pièces qui le constituent serviront de base pour déterminer ce qui sera notre PLUI. Dans le cadre de ce PLUI, nous avons plusieurs obligations. Nous avons d'abord définir les modalités de collaboration entre les maires, puisque ce PLUI est un document d'urbanisme qui va couvrir les 18 collectivités. Et donc il y aura une conférence intercommunale qui rassemblera à l'initiative de Madame la Présidente tous les maires des communes membres afin d'engager ce processus de PLUI. Dans la délibération, vous avez ensuite décrit toutes les procédures qui seront liées à ce document d'urbanisme qui est ni plus ni moins que les procédures qui sont applicables dans nos collectivités pour les PLU, mais de façon un peu plus collégiale puisque c'est à l'échelle de l'agglomération.
Y a-t-il des questions ? Un Soulignac ?
En fait, c'est juste une coquille, je pense, qu'on vous propose de corriger dans la délibération. C'est en page 2, au milieu. Dans le deuxième décide, il est écrit que les modalités de collaboration entre les maires seront définies conformément à l'article L123.6. Et en fait, c'est les modalités de collaboration entre les communes. Voilà, c'est tout simplement pour une petite correction.
Oui, les maires représentant bien leur commune quand même, jusqu'à preuve du contraire.
Les maires étant les représentants de leur collectivité.
Bien, y a-t-il des questions ? Pas de problème. Bon, de toute façon, nous avons voté pour la mise en place de ce PLUI. Et là, ce n'est que le démarrage officiel de la procédure, des procédures que nous allons engager, du travail que nous allons engager autour de ce document. Pierre Mallet veut apporter une petite précision. Je lui laisse la parole.
Oui, lors de la commission d'aménagement, nous avions évoqué la possibilité d'avoir un territoire plus important dans le cadre notamment des travaux de la SDCI, de la commission départementale de coopération intercommunale. Et il nous paraissait assez compliqué d'y intégrer ce développement de notre agglomération. Or, depuis, nous avons eu quelques réponses à nos interrogations, notamment de la part de l'État. Et il est tout à fait possible de prescrire le PLUI. Alors, on le prescrit pour deux raisons. La première, c'est d'abord et avant tout, et je veux le dire puisque ça a été dit en commission d'aménagement, une commune de l'agglomération, la commune d'Uchac, a un projet photovoltaïque. Et si on ne prescrit pas le PLUI avant le 31 décembre de cette année, ce projet serait mort-né, je dirais. Donc, alors, ce projet n'est pas encore finalisé, mais ça permet à la commune de continuer à travailler sur ce projet. Du fait que notre PLUI soit prescrit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dans le cas où d'autres collectivités, ce qui est le cas, viendraient nous rejoindre dans le courant du mandat et dans le courant de l'instruction de notre PLUI, nous pouvons d'ores et déjà, dans le cahier des charges, inscrire cette complémentarité avec un cabinet d'études qui serait chargé de travailler un PLUI d'une communauté voisine. Voilà, parce que la crainte, c'était de lancer un document d'urbanisme et dans 2 ans ou 3 ans, d'être obligé de repartir à zéro si notre communauté s'était élargie. Voilà. Le problème, maintenant, on a une solution. Donc, c'est pour ça que ce PLUI, notamment, est prescrit avant le 31 décembre. On répond à deux problématiques.
Voilà. Parfait, merci. Bien, je vais donc le mettre au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. l'approbation du plan local d'urbanisme de Luc Bardès et Bargues.
Bien, cette délibération est aussi une conséquence de la prise de compétence de l'agglomération, puisque les documents d'urbanisme de nos collectivités doivent systématiquement passer par les fourches du Conseil communautaire. Donc le document d'urbanisme, le PLU, pardon, ouais, c'est l'agriculteur qui parle. Hein. Le PLU de Luc Bardès et Bargues étant en finalisation, nous devons nous prononcer sur ce PLU, donc qui répond tout à fait aux critères qui doivent être appliqués, et notamment au SCOT et aux préconisations de notre SCOT. Donc la commission d'aménagement a donné d'ailleurs un avis favorable sur ce PLU. Je vous propose donc de donner un avis favorable pour le PLU de Luc Bardès et Bargues.
Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. De toute façon, je crois qu'il a été complètement fait dans le travailler avec l'agglomération et dans le respect du SCOT. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Y a-t-il des avis contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. La mise en compatibilité du PLU de Saint-Avit et du poste du Chac et Parentis dans le cadre de GPSO. Kermalé.
Bien, cette délibération donc, vous propose de mettre en compatibilité deux documents d'urbanisme, le PLU de Saint-Avit donc, et le poste du Chac. J'en viens de parler du PLU de Luc Bardès, qui lui a pris en compte cette mise en compatibilité. C'est pour cela qu'il n'est pas sur cette liste. Et les deux autres communes touchées, Geloux et Saint-Martin-Donné, sont en carte communale, donc n'ont pas cette démarche à faire. Pour cette délibération vous propose d'acter le fait que le secrétaire d'État chargé des transports et de la mer a fait part de la décision du gouvernement de poursuivre donc les études et conduire à la déclaration d'utilité publique de la LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, afin que cette déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme concernés, il convient d'achever la procédure de mise en compatibilité déjà engagée. Voilà, donc on vous propose par cette délibération de mettre en compatibilité les PLU de Saint-Avit et de Huchac et Parentis.
Y a-t-il des questions? Y a-t-il des avis contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Pierre Mallet, toujours pour une affaire de défrichement et de servitude.
Cette délibération vous demande l'autorisation de déposer des actes et des pièces administratives relatifs au défrichement. Vous avez le plan joint à l'annexe et des explications pour que l'entreprise en question dispose d'un recul nécessaire relatif à la prise en compte du risque incendie de forêt et qu'il y ait une servitude de passage. Voilà, vous avez tous le plan joint à l'annexe pour que ce soit compréhensible. Donc il vous est demandé d'autoriser la présidente à déposer à autoriser la propriétaire à déposer les actes et pièces administratives nécessaires à ces autorisations de défrichement.
Y a-t-il des questions? Y a-t-il des avis contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. L'approbation du schéma directeur d'accessibilité pour les transports urbains. L'agenda d'accessibilité programmé. Bertrand Tortigue.
Je vous propose de traiter la délibération 6 ainsi que la délibération 7, qui est donc sur le même sujet d'accessibilité, si vous n'en voyez pas d'inconvénients. Merci. Donc, vous savez que nous sommes sous la dépendance de la loi du 11 février 2005 qui nous donnait 10 ans pour rendre en accessibilité tout notre système de transport et nos ERP, c'est-à-dire nos établissements recevant du public. En termes de transport, c'est ce que nous avons fait dès le 8 juin 2011 en déterminant un vaste programme d'aménagement des points d'arrêt et en adoptant notre schéma directeur d'accessibilité. Depuis, vu le fait que tous les travaux, hélas, n'étaient pas faits, il y a eu une ordonnance en septembre 2014 qui, en termes de transport, ont assoupli de façon significative cette loi et qui maintenant nous permet de déterminer des points d'arrêt prioritaires et des points d'arrêt qui sont ce qu'ils appellent les ITA, c'est-à-dire une possibilité technique avérée de mise en accessibilité. Donc, à partir de cette nouvelle ordonnance, donc la commission, le bureau d'accessibilité s'est réuni à 4 reprises durant l'année pour donc déterminer ces points d'arrêt prioritaires et ces ITA. Actuellement, nous pouvons dire que sur les 199 points d'arrêt, nous en avons 122 accessibles. 15 ont été réalisés donc en 2015, 15 supplémentaires. Et pour l'année 2016, 2017 et 2018, donc il va rester, je crois, à peu près ce qui doit faire à peu près une soixantaine d'arrêts, donc un investissement de 60 000 euros qui sera établi donc sur les trois budgets. Il y a 12 ETA qui ont été signalés, où là, effectivement, il y a une impossibilité totale de rendre ces arrêts de bus accessibles. Donc dans le schéma directeur, vous avez donc le planning donc à la fin du dossier, donc avec l'agenda des différents arrêts qui seront mis aux normes durant l'année 2016, 2017 et 2018. Et autre point aussi que nous impose la loi, c'est surtout à la société du TEMA, c'est qu'ils ont l'obligation de former en termes d'accessibilité le personnel. Et je peux vous dire que d'ici la fin du premier trimestre 2016, la totalité du personnel de la société aura été formée. La deuxième délibération, ça consiste donc à nos ERP, nos établissements recevant du public. Ce sont tous les établissements communautaires. Donc depuis le 1er juillet, ce sont les écoles et les autres établissements communautaires. Bon, je ne vais pas... Vous avez dans le dossier la totalité des sites. Ça correspond à 47 sites. Il faut savoir que l'investissement, donc... théorique sera de 3 032 307 euros, mais par la suite nous allons déposer des demandes de dérogation, ce qui fait que nous pouvons obtenir de la part de l'État un coût total de 2 149 927 euros. Bien sûr, tous ces travaux seront programmés sur 9 ans. Vous avez donc dans le dossier la liste donc des différents établissements avec les sommes de travaux à réaliser correspondants. Et au dos, vous avez toute la programmation des différentes écoles et de nos autres établissements comme le pôle social, Menace, le siège agglomération, le pôle culturel et la fourrière pour les animaux. Donc voilà, ce qui fait qu'en principe, en termes d'école, à la fin de ce mandat, en 2020, nous devrions avoir la totalité des communes, sauf deux où il sera demandé une dérogation, des écoles donc accessibles, et la très grosse majorité des communes montoises. Voilà, Madame la Présidente.
Merci Bertrand. Y a-t-il des questions, des interventions, Madame Soulignac ?
Première question, l'école de l'Argenté ne sera pas équipée d'un ascenseur et donc les élèves en situation de handicap moteur seront scolarisés à l'école du Peyroit qui est à 2 km à côté. Je vois que l'école du Peyroit sera elle-même équipée, sera mise en conformité dans l'agenda en 2021. Donc première question, s'il y a des élèves qui sont en situation de handicap moteur qui relèvent de ce secteur, comment ça va se passer pour eux? Et à terme, est-ce que ça va avoir une incidence sur la définition des critères pour la sectorisation? Est-ce que les élèves qui sont en situation de handicap seront de droit inscrits dans l'école du Peyroit? Alors ça, c'est la première question. Et la deuxième, elle est plus large, mais ça concerne toujours la numéro 7. Hein. Est-ce que le programme bénéficiera d'aide publique? Il y a des communes et des agglos landaises qui, dans le cadre d'un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale, en ont bénéficié. Est-ce que ce sera le cas pour l'agglomération du Marsan? Je vous remercie.
Bertrand veut répondre.
Pour la première question, d'abord une toute petite remarque. Entre l'Argenté et le Peyroit, 2 km, non. Je veux bien 200 mètres, 300 mètres, mais pas 2 km. Il ne faut pas exagérer. Ensuite, actuellement, il faut savoir que même si nous avons à peu près 60% de nos écoles à Mont-de-Marsan accessibles, nous avons toujours trouvé des solutions. Je ne connais pas actuellement, il y a 90% sur les, d'enfants, 90%, pardon, 90 enfants en porteurs d'handicap qui sont dans, dans nos écoles, et on a toujours trouvé de solutions pour que ces enfants ne soient pas trop pénalisés et qu'ils puissent suivre une scolarité normale. Vous parlez de problème de l'argenté. Le problème de l'argenté, c'est que c'est une école qu'il faut entièrement refaire là-dessus. Donc peut-être qu'il y aura d'ici quelques temps un programme, comme il y a eu à l'école Saint-Médard, un programme de rénovation de l'école de l'Argenté. Et ensuite, les solutions que, effectivement, au bout de 2020, de la fin du mandat, si vous regardez la carte, à part l'école du Payroite, mais en fonction des différents dossiers déposés, nous pourrons avancer les travaux de cette école. Tout l'ensemble, par point géographique de, notre, de la ville de Mont-de-Marsan, la, les écoles seront accessibles. Et si, et c'est la loi qui nous l'impose et nous le ferons, si avec, à cause de la carte scolaire, un enfant qui est dans une école doit aller dans une école qui n'est pas encore accessible, hein, il y aura toujours la possibilité de la solution de, d'un transport. C'est-à-dire que le, l'agglomération mettra en place un système de transport avec un véhicule adapté, donc qui ira chercher l'enfant pour l'amener à l'école accessible la plus proche de son domicile. Enfin, dernière question, est-ce qu'il existe des fonds? Est-ce que nous allons obtenir des aides? À ma connaissance, je ne peux pas vous répondre, je vous dirai qu'à ma connaissance, non. Pardon?
Bon, le fonds en question, c'est un fonds qui est mis en œuvre pour... l'accessibilité des personnels. Voilà, alors on peut toujours demander, hein, je ne sais pas si ce sera retenu, on demandera d'ailleurs hein, des aides, mais bon, je ne suis pas sûre que si tout le monde demande, nous soyons... voilà, je pense que le fonds, il va vite se diluer, quoi, si vous voulez. Mais enfin, la demande sera faite, il n'y a pas de problème. Y a-t-il d'autres questions sur ces problèmes d'accessibilité? Enfin, moi, je veux saluer le travail qui a été fait, d'abord par la commission, par Bertrand Tortigue, et surtout dire que c'est un travail qui a été fait en collaboration avec, avec les associations d'handicapés qui ont participé de A à Z à ces travaux. Et donc, tout ce qui a été retenu ici l'a été en collaboration avec eux. Et je crois que d'ailleurs, ils ont beaucoup plus de bon sens que les pouvoirs publics. Qui impose des normes et qui impose des choses sans forcément de réflexion quant à l'utilité ou bon, au fonctionnement, alors que les associations d'handicapés qui connaissent bien les besoins des usages ont souvent des appréciations qui sont beaucoup plus... voilà, qui relèvent du bon sens et je crois qu'ils ont vraiment bien travaillé avec... avec la commission, donc moi je veux remercier tout le monde de ce travail important, et sachant que donc nous aurons bah, des enveloppes de 250 000 à entre 250 000 et 300 000 euros à mettre annuellement sur les seules écoles déjà pour l'accessibilité, 200 000 ou 250 000, et quant au schéma d'accessibilité et transport urbain, nous l'avions démarré depuis déjà un petit moment, hein. Et puis on va poursuivre au rythme que nous a indiqué Bertrand Tortigue. Bien, je mets aux voix la délibération 6, donc qui concerne le schéma directeur pour les d'accessibilité pour les transports urbains. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Le schéma directeur d'accessibilité pour le patrimoine bâti. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions. Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante concerne le lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre pour la construction de la pépinière d'entreprise sur le site du parc technologique Sowat. Alors, vous savez qu'actuellement, sur le site Sowat, donc ERDF a complètement vider les lieux, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'ils ont déménagé complètement et leur activité est totale au niveau de leur nouveau site. Et donc, nous pouvons maintenant penser à l'aménagement de ce site. Il est important pour nous de lancer un concours. Donc, il y a dans ce projet la création d'une pépinière d'entreprise qui viendra bien sûr remplacer la petite pépinière que nous avons pu aménager sur 500 mètres carrés, la fabrique, hein, qui est à l'heure actuelle en fonctionnement. D'ailleurs, autant dire que cette pépinière était importante puisque les bureaux sont pleins et que l'activité est importante au niveau de cette pépinière et montre bien que nous avons besoin de locaux plus importants pour pouvoir accueillir l'activité économique, accueillir des jeunes entreprises qui débutent et générer ainsi un pôle d'activité, d'innovation sur notre territoire. Donc, les études préalables ont permis de dimensionner ce projet de pépinière d'entreprise pour accueillir un espace de 14 bureaux à peu près, un espace de coworking de 10 postes, un espace de réunion modulable, un espace d'animation, un espace d'accueil et de rencontre, un plateau technique composé d'un atelier et d'une salle serveur, un espace administratif et des locaux techniques, sachant que l'espace de réunion modulable pourra accueillir, comme c'est le cas maintenant d'ailleurs, des formations, des visioconférences, sera équipé de tous les outils nécessaires pour pouvoir faire du travail à distance. Ce projet est estimé à 2,9 millions d'euros hors taxes et conformément aux règles donc du Code des marchés publics, un concours restreint d'architectes doit être lancé afin de retenir un projet de construction de ce futur bâtiment. Les candidats admis à présenter une offre remettront une esquisse sur laquelle se prononcera un jury. Il y a une prime qui sera versée aux candidats admis à concourir, donc il y aura un choix de 5 candidats maximum qui seront admis à concourir et ayant remis une prestation conforme au règlement du concours. Donc ceux-là recevront une prime comme il est d'usage dans ces concours. Donc le jury qui sélectionnera les candidats admis à concourir puis retiendra le projet lauréat sera composé donc de moi-même et de 5 membres du conseil communautaire élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste et 5 membres suppléants désignés selon les mêmes modalités. Bon, je vous propose que nous votions à main levée. S'il n'y a pas de vote contre, je vous remercie. Je vous propose la liste suivante de membres titulaires. Pierre Mallet, Hervé Bayard, Joël Bonnet, Michel Garcia et Éric Messrich. Et en membres suppléants, Bertrand Tortigue, Jean-Paul Gantier, Bernard Kruzinski, Frédéric Carrère et Didier Simon. Est-ce que il n'y a pas d'autres candidats? Monsieur Boissé?
Oui, en tant que locataire à la fabrique, j'aurais bien aimé pouvoir participer aussi à ce jury.
Là, je crains que ce soit compliqué. Justement. Bien. Non, je vous propose de garder. Vous serez tenu au courant, mais voilà. Je pense que c'est pas souhaitable. Y a-t-il d'autres? Non. Bon, alors je vous propose ces membres titulaires et membres suppléants. Donc je rappelle, titulaires Pierre Mallet, Hervé Bayard, Joël Bonnet, Michel Garcia, Éric Messrich et suppléants Bertrand Tortigue, Jean-Paul Gantier, Bernard Kruzinski, Frédéric Carrère et Didier Simon. Y a-t-il donc sur cette délibération, d'abord, y a-t-il des questions, des commentaires? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Bon, ce secteur entre la CCI qui doit réhabiliter tous les bureaux existants, enfin réhabiliter, créer son école de design sur le bâti existant, la pépinière d'entreprise, bon, cet espace va rapidement devenir un espace qui va fourmiller entre la formation, l'innovation et le démarrage d'entreprise. Je crois que nous avons là un projet qui sera tout à fait adapté aux besoins de notre territoire. La délibération suivante concerne la convention de partenariat en faveur de la promotion de l'efficacité énergétique. Et c'est un avenant numéro 1, Thierry Socodiavert.
Oui, merci Madame la Présidente. Donc faisant suite à la délibération que nous avions prise en Conseil communautaire en juin 2014, donc l'entreprise Certinergie, société de services en efficacité énergétique, a conclu avec le Marsan Agglomération une convention de partenariat en faveur de la promotion de l'efficacité énergétique. Or, la baisse importante de la valeur de marché de ces certificats d'économie énergétique, d'efficacité énergétique, a conduit à une remise en cause de l'équilibre financier initial souhaité par les parties, nécessitant de modifier la convention initiale par la voie d'un avenant. Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées afin de définir ensemble de nouvelles modalités quant à la détermination des primes CEE, afin que celles-ci soient indexées sur la valeur de vente des CEE au moment de leur disponibilité à la vente, et que la rémunération de Certinergie soit proportionnelle au volume de CEE obtenu dans le cadre des opérations d'économie d'énergie réalisées par le partenaire avec la contribution de Certinergie. Ce volet fait l'objet du premier article de l'avenant. Ensuite, afin de faciliter la valorisation des CEE reçus par la collectivité dans le cadre de ses travaux ou qu'elle reçoit dans le cadre de l'opération Action Habitat pour l'OPARU et le PIG, cet avenant offre la possibilité au Marsan Agglomération de confier la valorisation de ses CEE via son propre compte tout en respectant les conditions définies à l'article 2 de cet avenant. En dehors de cela, j'espère que vous avez tous lu la définition du terme CUMAC, qui est fort intéressant. Merci à vous.
Oui, moi j'avoue qu'il y a des moments, il faut que je lise 10 fois pour comprendre. Alors Thierry, c'est pas du tout toi qui es mis en cause, mais franchement... Quand les choses veulent se nicher de façon difficile, c'est difficile. Bon, très bien. Néanmoins, les gens qui maîtrisent complètement cette technique... Éric Messry, je veux poser une question, vous nous expliquez peut-être.
Vous êtes taquin. Non, je ne suis pas un grand spécialiste. J'ai tenté de le lire. C'est vrai que les méthodes de calcul sont plutôt très, très compliquées. De parler d'efficacité énergétique en pleine COP21, c'est plutôt intéressant. Mais moi, je vais poser une question plutôt terre à terre par rapport à tout ça. Mais est-ce qu'on a commencé ou est-ce qu'on a mesuré l'impact financier que ça pourrait avoir? Merci.
Thierry.
Alors, l'impact financier, je ne peux pas vous le chiffrer exactement aujourd'hui. Hein. Toujours est-il qu'en fait, le marché des CE, c'est comme un marché boursier. Qu'il s'avère qu'aujourd'hui, enfin même depuis plusieurs mois, un grand nombre de CE arrivent sur le marché. Ce qui fait que, ben, comme pour une action boursière, il y a une valeur de dilution de ces CE. Donc aujourd'hui, effectivement, vu la convention initiale, on est obligé, aussi bien pour Certinergie que pour nous, de renégocier puisque nous nous retrouvons dans un déséquilibre financier. Toujours est-il que là, aujourd'hui, notamment si l'on prend le deuxième avenant, on peut se permettre, nous, en tant que partenaire de Certinergie, de pouvoir fixer, dès le départ d'une opération, un prix du CEE tel qu'il est actualisé. C'est-à-dire, si on démarrait aujourd'hui une opération d'efficacité énergétique, on pourrait inscrire dans le cahier des charges le gagnant de l'appel d'offres aura à obtenir des CEE et il devra à la collectivité les CEE à ce prix-là. Alors après, c'est à Paris, puisqu'on est sur une opération quelque part boursière, les CEE pourraient très bien augmenter pendant l'opération, mais ils pourraient aussi aller à la baisse. Donc c'est un moyen de négocier. C'est un moyen de négocier. À la limite, on pourrait aujourd'hui, globalement et généralement sur le territoire national, se féliciter, justement dans le cadre de la COP21, de la baisse du tarif des CEE, parce que ça veut dire qu'il y a de très nombreuses opérations d'efficacité énergétique qui sont engagées. Donc autant que ça continue dans ce sens-là, on va parier sur le fait qu'ils vont encore baisser, et puis on fixera les prix à l'entrée de l'opération, comme ça on sera gagnant.
Très bien. Non, il y a les transactions virtuelles. On a l'impression là que c'est assez immatériel tout ça. Et c'est vrai que, voilà, ça me laisse rêveuse à moi aussi. Bien. Donc, y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? Didier Simon, c'est adopté à la majorité et une abstention. Je vous remercie. C'est vrai qu'il va falloir quand même que l'on... globalement, on trouve des choses qui soient un petit peu plus simples et compréhensibles pour que nous allions tous dans les besoins d'économie d'énergie, dans les besoins de rationalisation, d'utilisation des énergies en général et donc dans l'amélioration, enfin dans le plan climat et l'amélioration de l'état de notre planète, mais c'est vrai qu'il faudrait inventer des choses qui ne soient pas des usines à gaz, si j'ose m'exprimer ainsi, dans un tel cas, et qui soient compréhensibles par la population, déjà par les élus et par la population aussi, pour donner l'impression que c'est quelque chose quand même de réel et de bon sens, quoi. Bien, donc nous ferons un bilan quand même au bout d'un petit moment pour savoir, il sera intéressant de faire un bilan pour savoir très précisément quel est le gain, ce que nous espérons tous qu'il y a. Donc la finalisation des participations aux travaux d'aménagement du centre-bourg de campagne, Dominique Clavé.
Merci Madame la Présidente. Donc, dans le cadre de son programme annuel d'investissement de voirie, le Marsan Agglomération, a réalisé l'aménagement du centre-bourg de Campagne en partenariat avec la commune de Campagne et le conseil départemental des Landes. Les travaux liés à cette opération sont désormais terminés. Et je crois que le bourg a été, enfin je suis sûr que le bourg a été inauguré et que nous avons pu constater la qualité des travaux qui ont été réalisés. Voilà. Il est donc présenté ci-dessous le bilan financier de cette opération et les participations de chacune des collectivités. La participation du conseil départemental s'effectue sous deux formes, une participation à la couche de roulement de la route départementale 365 versée au Marsan Agglomération et une participation versée à la commune de Campagne dans le cadre des amendes de police. Le plan de financement final est le suivant, travaux Marsan Agglomération 331 733 euros, fonds de concours de Campagne 166 667 euros, participation du conseil départemental sous forme d'amende de police à la hauteur de 30 000 euros et la participation du conseil départemental à la réfection de la couche de roulement à hauteur de 17 500 euros. Au total des travaux s'élève à 546 100 euros. Voilà, Madame la Présidente.
Merci. Y a-t-il des questions ? C'est un beau bourg, hein ?
Ah oui.
Campagne. Hein ? Bien. Pas d'avis contre, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Non, c'est vrai que c'est une belle réalisation, comme comme tous les bourgs qui ont été réhabilités. Et je crois que pratiquement tout le monde, il y a encore des choses à faire à Saint-Perdon, mais je crois que dans l'ensemble, on peut dire que tous les bourgs de l'agglomération auront été transformés, réhabilités, améliorés, sécurisés, enfin bon, vous le mettez embellis, vous le mettez avec l'adjectif que vous voulez. La délibération suivante concerne délégation d'attribution à la présidente. La deuxième modification, alors je vais donner la parole à Pierre Mallet parce qu'il s'agit d'une conséquence de la délibération concernant le droit de préemption.
Merci Madame la Présidente. Oui, cette délibération vous propose de déléguer cette délégation à Madame la Présidente. Alors c'est surtout pour un souci, je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir répondre à des demandes purement communales, mais aussi pour un souci de réactivité, puisque le droit de préemption devrait être validé en conseil communautaire et il y a quelquefois des dossiers qui sont assez urgents au niveau de l'intérêt des communes. Et de ce fait, et par le biais de cette délibération, Madame la Présidente pourra prendre une décision et déléguer ce droit de préemption à la commune concernée et lui laisser la possibilité de porter le droit de préemption sur un bien ou sur un projet purement communal. Alors vous avez en annexe les délégations de Madame la Présidente et normalement en rouge, je pense, enfin, dans une autre couleur, il y a la délégation en rouge, c'est ça ? Voilà. Donc vous avez la nouvelle délégation telle qu'elle est exprimée. 4.18, exercer le droit de préemption défini dans le code de l'urbanisme, que la communauté d'agglomération en soit titulaire ou délégataire et déléguer ce droit à l'État, une collectivité ou à un établissement public qui est en vocation ou un concessionnaire d'une opération d'aménagement à l'occasion de l'aliénation d'un bien conformément aux dispositions de l'article 213-3 du code de l'urbanisme. Voilà, Madame la Présidente.
Très bien. Pas d'avis contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, nous avons une désignation de membres au sein des organismes extérieurs et en l'occurrence le centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Alors, notre agglomération détient 2 sièges au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier et nous avions désigné Jean-Marie Esquier et Joël Bonnet. Jean-Marie Esquier a fait connaître son intention de ne plus siéger pour des raisons de temps et voilà, il est très occupé par la délégation pour le scolaire et il convient donc de procéder à son remplacement. Je vous propose de désigner, enfin, j'ai un candidat, c'est Gilles Chauvin. Qui faisait partie de ce conseil de surveillance, mais qui a fait valoir ses droits à la retraite, donc qui n'en fera plus partie maintenant. Et donc, il veut y rester potentiellement, si vous l'acceptez, au titre de son mandat de conseiller communautaire. Voilà, y a-t-il d'autres candidats ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Alors, la commission consultative paritaire en matière d'énergie. Nous devons désigner un représentant de notre agglomération. Donc, il s'agit, toujours pareil, de l'application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le SIDEC doit, en tant qu'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de gaz, mettre en place avant le 1er janvier 2016 une commission consultative paritaire. Donc, il faut pour notre... Elle est composée d'un nombre égal de délégués de syndicats et de représentants des établissements des EPCI à fiscalité propre. Et cette commission sera chargée de coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, de mettre en cohérence les politiques d'investissement et de faciliter l'échange des données. Et donc, il convient de désigner le représentant de la communauté d'agglomération au sein de cette instance. Et je vous propose de nommer Thierry Socodia-Béer, qui est intéressé par tous ces problèmes d'énergie, à moins qu'il y ait une autre candidature, auquel cas nous procéderions à un vote à main levée, si vous l'acceptez. Il n'y a pas d'autre candidature ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Dernière commission, c'est la commission consultative de l'environnement où nous devons désigner des représentants de notre agglomération. Cette commission, il va falloir réunir cette commission pour notamment procéder à la révision du plan d'exposition au bruit. Cette structure est présidée par le préfet du département et elle doit être renouvelée. Cette commission est composée de représentants des professions aéronautiques, des collectivités locales concernées par le bruit de l'aérodrome et des associations de riverains et de protection de l'environnement. Donc notre territoire étant directement impacté par le PEB, comme actuellement, la communauté d'agglomération compétente en matière de lutte contre les nuisances sonores sera représentée par 3 titulaires et 3 suppléants. Là aussi, je vous remercie si vous acceptez que le vote se fasse à main levée. Pas de problème. Et je vous propose de désigner comme représentant au sein de la commission consultative en titulaire Hervé Bayard, Denis Capdeviol, Michel Garcia et en suppléant moi-même Joël Bonnet et Thierry Socodiabert. Madame Soulignac.
Nous souhaiterions proposer Didier Simon comme titulaire à cette commission, si c'était possible.
Mais il n'y est pas là. Il n'y a personne. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a que 3, il y a que 3 titulaires, donc je peux difficilement... je peux le mettre en suppléant. En suppléant. Très bien. En suppléant à la place de Joël Bonnet. Il a assez de commissions, Joël. Bon, il faut savoir que c'est une commission consultative, comme son nom le dit. Donc, Hervé Bayard... Denis Capdeviol, Michel Garcia, titulaire, Geneviève Darieussecq, Didier Simon et Thierry Socodiabert en suppléant. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Les affaires juridiques, ah oui. Alors, nous devons délibérer. En fait, nous sommes adhérents du syndicat mixte de gestion de baignade des Landes. Et la communauté de communes Côtelandes de Nature, qui est membre de ce syndicat, a souhaité le 8 juin 2015, en délibérant, son retrait du syndicat mixte pour la compétence surveillance de baignade. Donc nous sommes tenus, étant membres de ce syndicat, d'entériner tous les retraits ou d'ailleurs toutes les adhésions à ce syndicat. Donc y a-t-il des avis contre ? J'espère que non. Des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons arriver aux affaires financières et la délibération 16 concerne la révision des attributions de compensation relevant de la compétence action dans le domaine scolaire, périscolaire et extrascolaire. Il s'agit donc de la CLECT d'entériner... les résultats de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 9 novembre 2015. Je vais laisser la parole. Alors bon, Jean-Marie Esquin n'étant pas là, je vais laisser présenter cette délibération à Hervé Bayard.
Merci Madame la Présidente. Donc dans cette délibération, il s'agit en effet d'acter les montants des attributions de compensation modifié suite aux dernières évaluations du transfert de charges de la compétence scolaire, périscolaire et extrascolaire. La commission locale d'évaluation des charges transférées de décembre 2014 avait conclu à un transfert à hauteur de 10 790 983 euros, mais l'exercice effectif des compétences depuis le 1er juillet de cette année fait apparaître un écart de charges de 1 009 837 euros, soit 9,35%. Le montant du transfert adopté en CLECT le 9 novembre dernier se situe donc à 11 800 820 euros, ce qui impacte les attributions de compensation de chaque commune, comme indiqué dans la délibération.
Bien. Y a-t-il des interventions, Mme Soulignac?
Donc, dans le rapport de la CLET, il y a deux catégories de charges qui sont transférées à l'agglo en juillet 2015 sans diminution des attributions de compensation, la création du pôle de direction et la participation financière aux écoles privées pour les élèves de l'élémentaire de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. Alors, première question, pourquoi le financement des écoles privées ne fait-il pas l'objet, comme les autres charges, d'une diminution correspondante de l'attribution de compensation ? La compensation de l'attribution. Le rapport y signale aussi que le forfait par élève sera de 600 euros. Alors, ce montant nous paraît bien supérieur à ce qui se pratique dans des villes landaises. Pour information, c'est 321 euros à Soustons, 342 euros à Amou, 423 à Saint-Vincent-de-Tyros. Et pour la communauté des communes d'Air, ce montant est de 510 euros. Dans un département, la préfecture a établi un coût moyen départemental des élèves élémentaires de l'enseignement public. Et ce coût, il s'élève à 369 euros. Bon, à ce coût, il faut rajouter encore la dotation fourniture et ce qu'on appelle des aides sociales, c'est-à-dire s'il y a des aides pour les participations, des aides des communes pour que les enfants puissent participer à des sorties scolaires. Quoi qu'il en soit, nous sommes encore loin de 600 euros. Alors, nous avons encore une autre question. En conseil municipal, la semaine dernière, Madame Piau a indiqué que le rapport de la CLET n'a pas été voté par la commune de Bougues. À cette même réunion, vous avez indiqué, Madame la Présidente, que ce rapport a été adopté à l'unanimité. Alors, comme le rapport transmis ne contenait pas des éléments de débat ni de la feuille de présence, nous aimerions savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Enfin, en novembre 2014, au cours de la réunion d'information de l'ensemble des conseillers municipaux sur le transfert scolaire à Saint-Pierre-du-Mont, nous avions regretté que malgré l'implication que toutes les personnes qui se sont engagées dans le travail autour du transfert ont déployé, le calendrier était objectivement trop court pour mener de front l'ensemble des questions à traiter. Et nous pensons que ça explique en partie l'écart de 9% entre la première estimation du transfert des charges et la révision. C'est donc pour l'ensemble de ces raisons que les conseillers de Mont-de-Marsan voteront contre.
Alors, je vais essayer de répondre à quelques questions. La première, la CLECT s'est réunie. Nous vous donnerons la composition des membres de la CLECT, mais je ne crois pas me tromper en disant qu'elle a voté à l'unanimité. Je regarde des personnes présentes à cette commission. Elle a voté à l'unanimité cette proposition de répartition. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire de ce qui s'est passé dans notre collectivité. Deuxièmement, l'attribution de compensation pour les postes de direction, et ça c'est un choix qui a été fait par les maires, enfin en bureau, hein, par les élus en bureau et puis avec le cabinet qui nous accompagnait, qui a été fait ainsi d'ailleurs que le choix de la somme donnée de participation aux écoles privées. Il a été... alors en fait, je vais faire court. Hein. Mont-de-Marsan donnait une participation aux écoles privées, Saint-Pierre-du-Mont également, et les autres communes, personne. Et il y avait pourtant des enfants scolarisés dans les écoles privées. C'est une obligation légale. Donc, comme il y avait des différences, si vous voulez, entre les communes, et que nous devions, étant une collectivité importante, régler ce problème, ou du moins régler pour tous les enfants à l'échelle de l'agglomération, nous avons pris le choix ensemble
que ça ne ferait pas partie de l'attribution de transfert. Ça ne ferait pas partie du transfert, c'était une prise en charge par l'agglomération, c'est tout. C'est un choix qui a été pris de façon collective parce qu'il y avait des situations complètement différentes entre les communes. Voilà. Je ne sais pas, 600 euros, c'est un coût moyen qui a été calculé sur notre agglomération. Un coût moyen d'un enfant dans nos écoles. Voilà, tout simplement, c'est l'évaluation qui a été faite. Chacun peut aller chercher le sport le plus intéressant étant de faire que ça coûte le moins possible. Hein. Mais je crois que c'est pas ça. Il faut être assez honnête pour dire quel est le coût d'un enfant dans nos écoles. C'est un coût moyen au niveau entre l'urbain et le rural. C'est un coût moyen, voilà, qui a été adopté par. Par le bureau et puis la CLECT et les membres, enfin la CLECT, non, puisque ça ne faisait pas partie du transfert.
Non, la commission scolaire.
La commission scolaire, voilà, la commission scolaire, tous ceux qui se sont réunis sur ces sujets. Donc voilà, après vous parlez de calendrier trop court, moi pour tout vous dire, il n'y a pas de calendrier trop court. L'évaluation, les premières évaluations, elles ont été faites, alors je vous l'ai déjà dit en conseil municipal à Mont-de-Marsan, alors je vais répéter. Mais les premières évaluations de transfert, elles ont été faites, ça a été évalué sur les années 2011, 2012, 2013, ça a été la moyenne de ces trois années, et ensuite, la moyenne de ces trois années, plus 2%, il s'avère qu'entre 2014 et la moitié de l'année 2015, d'abord, il y a eu des écoles qui ont démarré les temps d'activité périscolaire. Il y a eu des changements. Il y a le nombre d'élèves qui n'est pas le même, des besoins de recrutement, des frais qui n'ont pas été évalués. Enfin, ça, c'était pour les frais de personnel en particulier, mais aussi des frais qui n'avaient pas été évalués. Et c'est à la mise en œuvre du service que tout ça est apparu. Mais nous aurions attendu 6 mois de plus ou 1 an de plus. Les choses étaient exactement les mêmes. Je veux dire, ça n'aurait rien changé au fait que l'évaluation, elle avait été faite sur ces trois années et qu'il fallait actualiser par rapport au fonctionnement réel des écoles au 30 juin 2015. Et ça, c'est une chose qui est juste. Parce que si nous n'avions pas, si collectivement toutes les communes ne transfèrent pas les moyens à l'agglomération qui correspondent au vrai fonctionnement de juin 2015... c'est l'agglomération qui va être mise en difficulté. Voilà. Mais tout le monde... Il faut que l'agglomération puisse exercer cette compétence avec les moyens réels de fin juin, du 30 juin 2015, au moment du transfert réel. Pierre Mallet.
Oui, pour expliquer un peu la différence, il y a aussi tout simplement des erreurs de calcul. Il y a des salaires, par exemple, qui ont été évalués sans être chargés. Il y a aussi des charges de personnel, les assurances, par exemple, la cotisation aux heures sociales, des choses comme ça, qui n'ont pas été prises en compte dans un premier temps et qu'il a fallu reprendre en compte pour les transférer. Donc tout ça, sur le nombre de personnes qui ont été dans le transfert, ça fait vite des sommes importantes. Voilà, c'est l'explication de ce différent.
Et je trouve que la différence n'est pas très, très importante compte tenu, c'est 10%, 9 à 10%. C'est en général ce type de différence que l'on retrouve dans tous les projets de transfert. Quand l'étude est faite sur 3 années bien antérieures, 3 années pleines, mais très antérieures, il faut réévaluer. On arrive à peu près à ces sommes-là. Monsieur Messrich, vous vouliez la parole ?
Oui, merci. Moi, je voulais juste... revenir pour abonder ce que disait Babette Soulignac sur les subventions accordées aux écoles privées. Elle a donné tout un tas d'exemples sur le département des Landes. Moi, je voudrais en donner un, en tout cas, sur l'agglomération montoise. La précédente commission de la CLEC de décembre 2014 indiquait la subvention aux écoles privées pour la ville de Saint-Pierre-du-Mont à hauteur de 370 euros. Un point qui avait été voté, je crois, en 2008, par une convention avec les organismes privés type OGEC, j'imagine. Donc les subventions données aux écoles privées sont plutôt bien réglementées par la loi et souvent doivent être basées sur le coût de fonctionnement d'un élève de l'école publique. Vous avez un petit peu répondu à cela, Madame la Présidente. Mais franchement, passer de 370 euros à 600 euros, on est quasiment au double. Dois-je comprendre que le coût d'un élève en l'espace de quelques années a doublé ?
Je pense, si je peux me permettre de vous répondre, que très tranquillement et très simplement, que les évaluations qui sont faites ou qui étaient faites sont des évaluations qui sont fausses, qui étaient fausses. Le sport, c'était de donner le moins possible à l'enseignement privé. Excusez-moi, mais je fréquente d'autres collectivités. J'ai fréquenté le conseil régional et je fréquente le conseil départemental. Il est donné aux collectivités, à l'enseignement privé, comme la loi le préconise, ce qui représente le fonctionnement moyen pour les élèves, que ce soit des lycéens, que ce soit des collégiens. Et je pense que, quel maire ici ou quel élu à l'éducation peut dire quel est le coût d'un enfant scolarisé dans sa commune? Vous le savez tous quand même ce que ça représente.
Ça a été évalué au début.
Alors, si on prend le personnel et tout, c'est bien plus de 1 000 euros par élève et par an. On peut aller très très loin. Donc l'idée d'aller, moi je veux bien qu'on soit idéologique, dogmatique, contre l'enseignement privé, etc. Bon, ça, je veux même pas jouer à ça ici. Ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une loi, il faut que l'on réponde aux obligations de cette loi. Moi, on peut toujours m'expliquer qu'un enfant dans une école primaire, dans une commune, ça coûte 150 euros ou 200 euros ou 300 euros par an. Je défie au maire de la commune de me prouver ça.
Moi, ce que je veux dire, c'est que si vous prenez la ligne de Bretagne et de Marsan, on est à 217 000 euros et on a d'enfants scolarisés dans le regroupement scolaire 120 enfants. Donc, si on multiplie 120 enfants par 600 euros, on est loin des 217 000 euros et on ne sait pas faire à moins. Et à quelques centaines d'euros par enfant, je pense que si on prend ces ratios-là, on n'est pas loin, sachant qu'on englobe tout. Et à 600 euros, c'est vraiment pas cher. Alors, c'est vrai que 300 euros, c'est encore moins cher. Mais il est clair ici que l'enseignement privé ne demande pas le coût exact. Ou alors il va falloir qu'ils nous apprennent au niveau, je pense, national, à faire fonctionner l'école, je pense. Moi je ne sais pas le faire. Moi, à 600 euros par enfant, ben, je ne sais pas si en mer qui sait faire. Moi, je ne sais pas faire. Si on veut offrir un service de qualité à nos enfants. Voilà.
Oui, monsieur Messrich. Oui, pardon.
Oui, merci. Non, bien évidemment qu'il ne s'agit pas de faire le procès de l'école publique contre l'école privée. En fait, personne ne souhaite le faire ici. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Il s'agit simplement de comprendre un certain nombre de choses. Quand on passe de 370 euros à 600 euros, j'entends bien ce que vous dites. En revanche, moi, je suis élu à Saint-Pierre-du-Mont depuis quelques années. En 2008, sur le dernier mandat, j'y étais. J'ai jamais vu débouler dans le bureau du maire les responsables de l'OGEC, enfin en tout cas de l'école privée sur le territoire du Marsan, en hurlant au loup auprès du maire, comme quoi il ne respectait pas les choses, il n'avait pas assez d'argent. Donc, à mon avis, sur ce dossier-là, je crois que respecter la loi, bien évidemment qu'il faut le faire. Moi, je crois que c'est un véritable choix politique de le faire à minima, de respecter la règle concernant les subventions aux écoles privées et ne pas aller au-delà. Voilà. Donc, pour ces raisons, de la même manière, je voterai contre cette délibération. Merci.
Joël Bonnet veut dire quelque chose ?
Oui, merci Madame la Présidente. Simplement, par rapport à Saint-Pierre-du-Mont, effectivement, ça avait été mis en 2008, parce qu'à l'époque, Saint-Pierre-du-Mont ne respectait pas, puisqu'il ne versait pas, le forfait communal aux écoles. Et Donc ça avait été régularisé et que le calcul qui avait été fait n'intégrait pas un certain nombre d'éléments, notamment le coût des fluides, le coût de tous ces éléments-là qui n'étaient pas intégrés. Parce que si on respecte toute cette... Il y a une formule très facile qui existe, qui permet de calculer le coût de l'enfant. On est, pour information... Il faudrait distinguer les enfants maternels, les enfants du primaire, où le coût n'est pas le même. Et on arrive à des moyennes qui sont de 800 et quelques euros. Hein, sur, je parle de ça des années 2010. On était à 800 et quelques euros de le coût moyen d'un élève, qui, je crois, aujourd'hui est beaucoup plus élevé.
Bien. Et puis, pour tout vous dire, je pense que l'OGEC et compagnie, ils n'avaient pas du tout envie d'aller dans le bureau du maire. Bon, ce serait fait recevoir. Voilà. Discuter le bout de gras. Bien. Et je rappelle pour terminer que la commune de Mont-de-Marsan, quand j'ai personnellement été élue en 2008, a reçu l'injonction du préfet de payer les sommes, parce qu'il y avait aussi une participation communale qui avait été jugée insuffisante par le préfet. Nous avions eu l'injonction de nous mettre au regard de la loi. Bon, voilà. Bien, alors, y a-t-il d'autres questions, pardon, pour la collecte ? Oui, monsieur Apestegui.
Excusez-moi, ce n'est pas du tout une question, c'est simplement, je pense, une coquille sur la Délib. En effet, j'ai bien lu. Bon, d'accord. Vous rectifierez ? C'est oui, parce que vous parlez de 11 800 et en bas, 11 805. Et voilà.
La coquille sera corrigée. Heureusement que vous êtes là, Gérard. Ouais. Merci. Bien, y a-t-il des... Pas d'autres interventions. Donc, y a-t-il des avis contre ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, M. Simon, M. Leitet, Mme Soulignac, Mme Juan. Vous aussi, M. Mesrich, vous avez un pouvoir. Et M. Dangoumo. Donc, 7 voix contre, abstention. Une. Adoptée à la majorité. 7 voix contre, une abstention. Je vous remercie. Le budget principal, la décision modificative. Hervé Bayard.
Oui, donc dans cette délibération 17, cette décision modificative résulte en grande partie d'ajustements par rapport au budget primitif lié au transfert des compétences scolaires, périscolaires, extrascolaires et production culinaire. Ainsi, sur les frais de personnel, soit le chapitre 012, sont rajoutés 550 000 euros en remboursement de mise à disposition et de salaire. Au chapitre 011, diverses charges manquantes, telles que par exemple l'entretien des véhicules, les assurances, les bacs à ordures, les affranchissements, etc., sont rajoutés 86 114,50 euros. Au chapitre 65, diverses subventions telles que celles versées au COS, au Comité national d'action sociale, aux coopératives scolaires, en lieu et place des communes, ont été rajoutées 40 540 euros. Enfin, le transfert de ces compétences et des équipements n'est pas sans incidence sur la dotation aux amortissements à hauteur de 102 866 euros et 20 centimes. Voici en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement. Maintenant, en recette, nous avons inscrit au chapitre 013 des remboursements par les communes de frais de personnel agglo pour 70 000 euros. Au chapitre 74, un acompte du fonds d'amorçage versé par l'État au titre des rythmes scolaires, les TAP, pour 70 000 euros. Enfin, l'ajustement des attributions de compensation représente 432 000 euros supplémentaires par rapport au budget 2015. Il convient de préciser que certaines charges, on a déjà évoqué la question, certaines charges sont directement assumées par le Marsan Agglomération. Il s'agit du coût de la direction de l'éducation pour 90 000 euros par an et des subventions aux écoles privées pour 102 000 euros. En investissement, à présent, nous enregistrons un transfert de crédit pour des frais d'études et de logiciels et pour des travaux du chapitre 21 au chapitre 20. Cette décision modificative acte aussi des recettes et dépenses non liées au transfert des compétences précitées. En dépenses de fonctionnement, un changement d'imputation pour des rémunérations de techniciens de la culture, 4 096 euros, et des ajouts de crédit pour les fluides médiathèques et aires d'accueil. En recette de fonctionnement, nous enregistrons des rôles supplémentaires pour 20 000 euros et des remboursements d'assurance suite à sinistre. En dépenses d'investissement, nous enregistrons dans les APCP, financement LGV, des reports et des diminutions détaillées dans la délibération 20 à venir. En recettes d'investissement, nous enregistrons de nouvelles subventions attribuées suite aux intempéries de 2014. Enfin, l'équilibre de cette DM s'effectue par une diminution du virement à hauteur de 186 526,20 euros en fonctionnement et par une diminution des emprunts de 6 475 217 euros et 60 centimes en investissement.
Très bien. Y a-t-il des questions, des commentaires, Madame Soulignac ?
Juste pour expliquer que dans la logique de notre vote défavorable précédemment, on votera aussi, on ne votera pas non plus cette délibération.
Très bien. D'autres prises de parole ? M. Riche aussi, donc. Y a-t-il des avis contre, alors ? Donc, 7. Y a-t-il des abstentions ? Contre, Monsieur Dumoulin ? Donc, 8. 8 contre, des abstentions ? C'est adopté à la majorité avec 8 votes contre. Le budget annexe transport. Hervé Bayard.
Donc, dans cette délibération 18, nous actons des modifications au budget annexe transport par rapport au BP 2015, soit une augmentation de la contribution financière forfaitaire à hauteur de 93 944 euros, des prestations assurées par le Marsan Agglomération en lieu et place de la ville de Mont-de-Marsan suite au transfert de compétences scolaires, l'annulation de la cotisation de transport de certaines entreprises, 4 500 euros, et enfin la revalorisation du versement transport compte tenu des rentrées actuellement constatées, 48 344 euros.
Bien, y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Les autorisations d'engagement de liquidation de mandatement de dépenses d'investissement dans l'attente du vote du budget primitif à hauteur du quart des crédits ouverts en 2015. Hervé Bayer.
Donc il s'agit dans cette délibération, adoptée chaque année à cette époque, d'autoriser dans l'attente du vote du budget 2016 tout engagement, liquidation et mandatement de dépenses sur les chapitres 1300, 20, 204, 21 et 23 à hauteur de 25% des crédits ouverts en 2015, soit 2 889 000 euros. L'objectif est de permettre au service de poursuivre durant le premier trimestre toute opération ou action d'envergure sans attendre le vote des crédits nécessaires.
Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La délibération concernant la modification des APCP. Hervé Bayer.
Donc régulièrement, nous sommes amenés à modifier ce qu'on appelle les APCP, soit les autorisations de programme crédit de paiement adoptées pour chaque opération d'envergure. Nous en comptons 11 au budget de la communauté d'agglo, réalisées sur plusieurs exercices. Les modifications proposées aujourd'hui concernent deux opérations. Les fonds de concours 2015 auxquels on déduit 120 000 euros correspondant à la subvention attribuée à Mont-de-Marsan dans le cadre de la construction de l'école Saint-Médard et récupérée dans le cadre du transfert de la compétence scolaire. Autre modification, la participation à la construction de la LGV, dont on décale le règlement de 2015 à 2016 pour raison de conditions de paiement non réunies.
Y a-t-il des questions, des interventions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La délibération 21. Des autorisations de versement d'une avance sur la subvention au CIAS, Hervé Bayard.
Si vous en êtes d'accord, donc on va aborder les délibérations 21 et 22. Oui, d'accord, très bien. Il s'agit donc dans ces deux délibérations d'accepter le versement d'une avance de la subvention 2016 à hauteur de 25% des crédits ouverts en 2015, et cela sans attendre le vote du budget 2016. Au CIS pour un montant de 450 000 euros et à l'Office du tourisme du Marsan pour un montant de 131 250 euros. Ces avances doivent éviter à ces établissements qui bénéficient de subventions tout déficit de trésorerie.
Y a-t-il des avis ? Alors, la délibération 21 concernant le CIAS, y a-t-il des avis contre ? Des abstentions. C'est adopté à l'unanimité. La délibération 22 concernant l'Office de tourisme. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions. C'est adopté à l'unanimité. L'approbation du compte administratif de l'Office de tourisme. C'est Hervé qui le présente. D'accord, Hervé Bayard ?
Donc dans cette délibération 23, il s'agit tout simplement d'approuver pour la première fois et conformément à l'ordonnance de mars 2015 le compte administratif de l'Office du tourisme. Il convient de retenir que ce compte administratif affiche un résultat en fonctionnement de plus 101 771,85 € et en investissement de plus 11 875,15 €.
Bien, y a-t-il des questions, Mme Soulignac ?
Nous l'adopterons, mais est-ce qu'il sera possible d'avoir le compte administratif plus détaillé que ce qui est dans le document ? Ceci dit, la synthèse, on n'a pas peur d'engager notre vote au vu de la synthèse.
Pour moi, il n'y a pas de problème. Il faudra demander ça ce sont des documents publics, même s'il s'agit d'un EPIC, il faudra demander ça au directeur de l'Office de tourisme. Sachant que je vous rappelle que la création de cet office de tourisme et son passage en EPIC, enfin la collectivité, notre collectivité, s'était engagée sur une subvention d'un accompagnement à hauteur de 375 000 euros sur 3 ans, et que là nous avons voté un nouvel accompagnement pour les 3 années suivantes, puisqu'il faut avoir un peu de visibilité aussi pour ces organismes, qui est moins important, qui est à hauteur de 525 000, je crois que nous avons diminué de 50 000 euros, sachant que l'Office de tourisme commence à avoir, bien sûr, des ressources propres. Enfin, il y a la taxe de séjour, plus des ressources qui sont développées par cet office, qui est très dynamique, qui, je crois, porte bien notre territoire, qui a mis en place des outils intéressants et importants pour pouvoir communiquer à l'extérieur, et qui fait un gros travail de fond dans le domaine du tourisme avec succès, puisque de plus en plus de personnes qui fréquentent notre territoire, tant au niveau des hébergements sur le territoire que aussi au niveau de visites d'une journée, ce qui est aussi important puisque cela génère quand même la consommation sur notre territoire et de l'activité économique. Voilà. Donc il n'y a pas de problème pour ce compte administratif, si vous le souhaitez. C'est pas du tout secret, au contraire. Donc il faut que nous l'approuvions. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Alors là... Oui, alors, ces délibérations, elles ont été mises un peu en vrac, excusez-moi. La délibération 24, qui concerne... Ah, mais c'est toujours du financier, quand même. Qui concerne... Jean-Yves Parrono, tiens, parce qu'il pensait qu'il allait rien dire, il va se réveiller. La prise en charge de dépenses et recettes liées à la gestion des compteurs d'eau et d'électricité de la Fourrière. Ça, c'est une délibération importante.
Oui, alors donc depuis le 1er mars, le Marsan Agglomération gère la Fourrière communautaire. Avant cette date-là, c'était la SPA qui gérait aussi bien la Fourrière que le refuge. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas le lieu, tout se tient au même endroit. Et il y avait un seul compteur d'eau qui desservait la Fourrière et la SPA, et un seul compteur électrique qui desservait la Fourrière et la SPA. Il faut savoir que les fluides étaient payés par le Marsan Agglomération. Donc, à la prise de compétence, il a été décidé de séparer les dépenses de fluides. Et actuellement, il y a un seul compteur d'eau, et la facture d'eau est envoyée à la SPA, alors qu'il y a une partie qui doit revenir à la Fourrière. Pour l'électricité, nous avons fait mettre un sous-compteur, mais le ERDF n'en a pas tenu compte. C'est nous qui avons pris la dépense électrique. Donc cette délibération, c'est pour permettre au Marsan Agglomération de réclamer la part de la dépense électrique à la SPA et de payer notre part de dépense d'eau à la SPA. J'ai été clair ?
C'est parfait et on ne va surtout pas mélanger l'eau et l'électricité dans ces échanges. Ça pourrait faire des effets collatéraux. Bien, pas de besoin d'explications complémentaires, ça a été très clair. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, on passe au tourisme. Joël Bonnet va nous parler de la convention de partenariat dans le cadre de l'appel à projet régional structuration touristique des territoires avec les communautés de communes du Pays Grenadois et de Cap de Gascogne. Joël.
Oui, merci Madame la Présidente. Donc je vous rappelle que nous avions déjà présenté en Conseil communautaire l'appel à projet des trois agglomérations qui se sont regroupées, donc le Marsan Agglomération, la communauté des communes du Cap de Gascogne et la communauté des communes du Pays Grenadois qui ont répondu à un appel à projet de la région. Cet appel à projet a été, la région Aquitaine a décidé d'apporter un soutien financier au Marsan Agglomération qui est le chef de file de la démarche. Pour le subventionnement, notamment d'un poste de chargé de l'appel à projet régional, ce qui implique une convention à élaborer, à mettre en place entre les trois agglomérations. Vous en avez le contenu hein, de l'agglomération ainsi que le détail des répartitions sur 48 mois, puisque l'aide financière, la subvention est étalée sur 48 mois. Donc voilà, et donc il est demandé au Conseil communautaire d'approuver la convention de partenariat.
Merci Joël. Y a-t-il des questions ? Madame Salambier ? Madame Soulignac. Excusez-moi Delphine. juste une question, parce que le 24 février dernier, donc le Conseil communautaire a effectivement autorisé à déposer une candidature à l'appel à projet. Alors, à l'époque, le syndicat mixte des Landes d'Armagnac était mentionné dans cette délibération. Et là, visiblement, elle n'est pas mentionnée. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé entre-temps ?
Oui, alors à l'origine, effectivement, il y avait les quatre territoires qui devaient répondre à l'appel à projet. Le syndicat mixte Landes-Armagnac a décidé de ne pas participer à cet appel à projet. Donc voilà, donc nous l'avons soutenu à trois territoires.
Au grand dam des opérateurs touristiques qui avaient travaillé sur ce projet, malheureusement. Et enfin, c'est les élus qui n'ont pas souhaité, quoi. Alors que le travail en amont avait été fait avec tous les territoires. Bien, y a-t-il d'autres questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Bon, c'est aussi un dossier intéressant et qui montre que voilà, les territoires peuvent travailler ensemble sur des sujets qui fédèrent un petit peu les énergies. C'est bien. Alors Delphine Salambier, justement, j'étais déjà à la délibération. J'ai fait voter celle-là ? Je ne sais plus du coup. Ah, il me semblait. J'avais pas. Excusez-moi. La délibération 25 à propos de cette convention de partenariat dans le tourisme. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Dans le domaine culturel, le règlement d'attribution des aides aux communes membres, Delphine Salambier.
Oui, merci Madame la Présidente. Alors effectivement, de par sa compétence facultative relative aux actions dans le domaine culturel, le Marsan Agglomération apporte un soutien financier et logistique aux manifestations culturelles qui sont soutenues par les communes membres. Alors en fait, il est proposé au Conseil communautaire d'établir un règlement d'attribution en la matière que vous avez en suivant. Alors au niveau de la demande, seul le maire d'une commune membre peut déposer auprès du Marsan Agglomération un dossier de demande d'aide dans la limite d'une par année civile et par commune. Et le projet présenté peut quant à lui être organisé par une association de la dite commune. Le dossier de demande doit impérativement comprendre les éléments sur le projet culturel, le budget, la date et le contenu culturel. Les dossiers de demande d'aide devront être déposés ou envoyé au siège du Marsan Agglomération, selon la date butoir qui sera précisée. Les dossiers présentés après cette date ne seront pas pris en compte et ils seront examinés ensuite par la commission rayonnement communautaire. La commune membre du Marsan Agglomération peut porter un projet en son nom propre ou pour le compte d'une association. En tout état de cause, c'est seule la commune qui sera bénéficiaire de l'aide allouée. L'attribution de l'aide sera formalisée après avis de la commission. Alors, les critères d'évaluation ont été rajoutés. Selon certains critères, les critères selon, c'est la dimension communautaire du projet, la pertinence du projet culturel, la diversité des publics ciblés, l'accessibilité de la manifestation en termes de tarification et l'importance du budget consacré au projet de l'action culturelle à subventionner, l'implication des acteurs culturels locaux. Les montants de l'aide sont les mêmes que ceux exposé l'année dernière. Quant à la communication, l'aide du Marsan Agglomération devra être valorisée dans tous les budgets de la manifestation et le porteur du projet culturel aidé par ce dispositif veillera à ce que toute communication autour de la manifestation mentionne le Marsan Agglomération avec la présence du logo. Et les informations relatives au projet devront être transmises par le porteur du projet au service communication afin qu'il soit relié sur le site. Alors, les demandes qui sont non recevables sont exclues de ce programme, les aides pour les fêtes nationales, les fêtes traditionnelles ou patronales et les manifestations festives et ou sportives, et les contributions concernant les animations en direction de la lecture publique et le festival Marsan-sur-Seine ne seront pas concernées par les présentes modalités. Voilà, les dossiers qui seront au-delà de la date butoir ne seront pas pris en compte. Je vous remercie.
Merci Delphine. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Alors, on revient au dossier précédent, en fait, avec la création d'emplois chargés de mission tourisme dans le cadre de l'appel à projet régional. Joël Bonnet.
Oui, effectivement, c'est dans la parfaite continuité de la délibération numéro 25 concernant l'avis favorable de la région Aquitaine concernant l'appel à projet des trois territoires et la subvention accordée par la région pour le recrutement d'un chargé de mission pour suivre justement cet appel à projet. Donc l'Office du tourisme, qui représente le territoire agglomération, a initié une démarche visant à réaliser une réponse conjointe. Et dans un contexte d'optimisation des moyens de l'intérieur des Landes, ces trois territoires sont également accordés à la nécessité de travailler sur l'harmonisation de certains services touristiques, d'où la nécessité du recrutement du chargé de mission. Et donc de proposer de créer un emploi d'attaché territorial à temps complet pour assurer la préparation et le suivi de cet appel à projet et pour assurer également l'harmonisation des services touristiques, étant précisé que la fonction publique territoriale, sur les statuts de la fonction publique territoriale, l'emploi pourrait être pourvu par voie contractuelle sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues de la dite loi. Le traitement de l'agent sera assuré pour moitié par la subvention octroyée par la région, comme on l'avait vu tout à l'heure, et le financement de l'autre moitié étant réparti entre les trois communes. On avait la répartition tout à l'heure dans le tableau. Voilà.
Communauté. Pas commune. Bien. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Les deux dernières délibérations, c'est Pierre Mallet avec Navenant au contrat à durée indéterminée du directeur départemental musique à Pôle culturel.
Par délibération du 2 juin 2008 et du 19 juin 2012, le Conseil avait autorisé la création d'un emploi de directeur du département musique au Pôle culturel du Marsan. Après 6 années de contrat à durée déterminée successifs, la reconduction a donc été effectuée par un CDI. L'évolution des missions de cet agent, notamment au regard de la proportion de moins en moins importante liée à son activité d'enseignement musical, il vous est proposé d'autoriser la modification de cet emploi, changement de filière dans la même catégorie, à compter du 1er janvier 2016, d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe, en rédacteur territorial principal de première classe. Vous avez le détail dans le projet de délibération, grade de rédacteur territorial, poste à temps complet, recrutement par voie contractuelle, rémunération établie sur la base de rédacteur territorial, l'intéressé bénéficiera du régime indemnitaire applicable au cadre d'emploi.
Bien, y a-t-il des questions ?
Bon, c'est la transformation d'un poste, hein, tout simplement, qui existe. Hein. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Et enfin, les frais de déplacement des agents à l'intérieur du territoire communautaire. Pierre Mallet.
Oui, cette délibération vous propose de mettre en place la prise en compte d'un forfait pour les frais de déplacement pour les agents qui sont listés dans la délibération et qui effectuent leur travail à l'intérieur du territoire communautaire. Compte tenu de ces déplacements, ces agents sont tenus de temps en temps d'utiliser leur véhicule personnel. Donc on vous propose une indemnité annuelle à hauteur de 210 euros à définir et en fonction des listes concernées, des animateurs intervenant au quotidien, un éducateur sportif qui intervient aussi au quotidien, des agents assurant la tâche d'entretien sur plusieurs bâtiments éloignés les uns des autres, des agents du service informatique qui sont aussi amenés à se déplacer, le responsable de spectacle vivant et l'agent en charge de l'action sociale se déplaçant au quotidien dans l'exercice de ses missions. Vous avez donc la liste des secteurs et donc des personnels qui sont concernés par cette indemnité annuelle. Voilà, Madame la Présidente.
Merci. Pas de questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Bien, mes chers amis, nous avons terminé. J'en vois qu'ils sont fatigués, qui baillent. Nous avons terminé notre conseil communautaire. Je vous remercie de votre participation active et je vous dis pour notre collectivité, je pense que notre prochain... Enfin, nous déterminerons les dates des conseils pour les 6 prochains mois que nous vous donnerons afin que vous puissiez vous préparer, mais ce sera vers la fin du mois de... fin du mois de janvier ou début février. Début février, voilà. Avec le débat d'orientation budgétaire, puis le budget ensuite. Merci à vous et bonne soirée.